Nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 6.
Oui, numéro 6, c'est bien
avec
ça.
Avec Anaël dans le studio et Pascal à la régie.
Bonjour Pascal.
Bonjour Anaël. Ça me fait drôle de te retrouver derrière la vitre.
Bah, exactement comme moi, hein, de te voir de l'autre côté, ça donne un point de vue différent.
Exactement, un point de vue différent qu'on aura largement le temps de développer lors de cette émission, avec évidemment toujours en actualité le filtrage internet, Adopi, la riposte graduée. On dirait qu'on en parle tout le temps, mais c'est vrai, on en parle tout le temps et il faut en parler parce que l'actualité bouge ces temps-ci. Évidemment, les incontournables nouvelles du front qui englobera tout ça. On aura aussi une interview de Mathieu Pasquini qui n'est autre que celui qui a fait et qui fait In Libro Veritas, c'est-à-dire un site de lecture sur Internet où on peut lire les livres sur Internet, où on peut les télécharger aussi, on peut aussi les acheter, bien sûr. Tout ça ponctué par une petite sonnette et par évidemment de la musique libre. Évidemment, on commence tout de suite avec un petit coucou quand même à Gilou, on pense à lui.
Oui, Gilou, remets-toi bien et reviens-nous vite. Et en attendant, les nouvelles du front.
Tout de suite, les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front aujourd'hui. Donc, on va commencer par un sujet toujours autour du filtrage de l'internet et tout ça, c'est l'Allemagne abandonne le filtrage de la pédophilie. Ça ne sert à rien. Donc l'Allemagne accorde un an au FAI pour démontrer que le filtrage ne sera pas utile à la lutte contre la pédopornographie, ce qui ne devrait pas être compliqué. Moins de 1,5% des adresses référencées par la police contiendraient effectivement des contenus pédophiles. Et sur cette part restante, l'immense majorité sont supprimées par les hébergeurs des notifications.
Par des genre des notifications, excuse-moi un petit peu, j'étais dans mes boutons, dans mes niveaux, je te laisse un petit peu continuer.
D'accord, Pascal est très occupé aujourd'hui, donc nous allons continuer sur le sujet, sur l'Allemagne. Donc, on reprenait sur le président allemand, Horst Köhler, a refusé de promulguer la loi Internet Restriction Act, qui devait servir de base juridique au blocage de sites Internet, notamment à la pédopornographie. Donc, selon le Spiegel, Köhler aurait demandé un complément d'information, de manière diplomatique, de geler la loi dont le gouvernement avait de toute façon demandé qu'elle ne soit pas appliquée. Donc voilà, donc selon les médias allemands, le texte est bel et bien morné et le Parlement devrait entériner l'abandon du texte. Donc un signal fort qui tombe mal pour la France, dont le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé qu'il ferait voter à partir de fin janvier, la loi LOPSI, qui prévoit le même type de filtrage du net. Donc,
L'article ne suivra pas le même chemin que l'Australie et ne montrera donc pas la voie à la France au moment d'adopter la loi LOPSI. Selon l'Association française des fournisseurs d'accès, l'AFA, dont PC Impact révèle un email envoyé à ses membres, le gouvernement allemand a décidé de ne pas exécuter The Internet Restriction Act pendant au moins un an. Très contesté, le projet de loi qui avait donné lieu à des manifestations et à une bavure prévoyait de donner à l'administration le pouvoir d'imposer au FAI de bloquer l'accès à des sites dont la liste établie par la police n'aurait pas été vérifiée par l'autorité judiciaire.
Donc, confronté à la réalité des faits, le gouvernement a finalement reconnu que le blocage n'était pas efficace lorsqu'il sert à restreindre l'accès des contenus d'abus sexuels sur mineurs hébergés en dehors de l'Union européenne. D'abord parce que le filtrage est inefficace sur un plan technique, à empêcher les pédophiles d'accéder aux contenus par divers biais. Ensuite, parce que les visites involontaires vers les sites hébergeant de tels contenus sont pratiquement inexistantes. Donc, il est bien le temps d'en parler, hein. Et enfin, parce que c'est aussi prendre un fusil pour tuer une mouche. C'est vraiment de la survisualisation du problème. Donc, on se souvient qu'un blogueur allemand, Alvar Freud, avait réalisé cet été un script qui envoyait automatiquement une demande de retrait de contenu aux hébergeurs des sites bloqués. Et sur 348 hébergeurs contactés, 250 avaient répondu. Et 61 avaient retiré le contenu illicite en moins de 12 heures. Preuve que le dialogue était plus efficace que le filtrage. Donc, l'expérience a visiblement été menée à plus grande échelle avec des résultats spectaculaires. Donc, d'après les études menées en Allemagne, et encore en cours, sur 8000 URL contenues dans les listes noires présumées de la police, seuls 110 sites web contenaient des images d'abus sexuels sur mineurs et des images érotiques de mineurs. Et après notification à l'hébergeur, seulement 7% des contenus illégaux hébergés dans des pays non membres d'INOP étaient encore en ligne après 14 jours. Donc c'est ce que vous venez d'entendre est une note de l'AFA, c'est assez impressionnant.
En clair, c'est un énorme sujet d'inquiétude. Sur 8000 adresses référencées par la police sans contrôle judiciaire, seuls 1,37% des URL avaient un vrai caractère pédophile. Et c'est sûr. C'est 1,37%, 93% ont été retirés en moins de 2 semaines. Dit autrement, l'extrême majorité des contenus signalés par la police sont légaux, soit régulés par les hébergeurs eux-mêmes qui acceptent de supprimer les contenus des notifications, même lorsqu'ils sont à l'étranger. Aucun besoin de filtrage, à la fois coûteux, inefficace et injuste.
Donc, comme le demandent en Australie les associations de protection de l'enfance, ce n'est pas avec le filtrage qu'on protège les enfants, mais en chassant les pédophiles. Donc, la seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est puisse la France entendre raison et arrête de prétendre que le filtrage protège les internautes.
Et oui. Et autre sujet, Christine Albanel, chargée de mission sur la numérisation.
Selon le Figaro, Christine Albanel devait être chargée par François Fillon d'une mission d'information sur la numérisation des livres et le développement d'une offre légale attractive pour les livres sur Internet. Donc, nous avons eu 2 réactions successives à la lecture de cette information du Figaro, selon laquelle Christine Albanel a été chargée par le Premier ministre François Fillon d'une mission sur la numérisation des livres et le développement avec les éditeurs français d'une offre légale attractive sur Internet.
Première réaction, comment Matignon peut-il confier à Christine Albanel une nouvelle mission sur la numérisation des livres alors même que le ministre de la Culture a confié à Marc Tessier une mission toujours en cours sur la numérisation du patrimoine, en particulier des livres. Marc Tessier doit rendre ses conclusions le 15 décembre, tandis que Christine Albanel devra rendre les siennes le 1er avril. Non, c'est bien le 1er avril. Que fera le ministre de la Culture du rapport Tessier pendant les 3 mois et demi de battement ? Et comment le ministère pourrait privilégier les conclusions de Marc Tessier à celles de l'ancienne locataire de la rue Levallois ? La mission confiée à Albanel enterre le rapport Tessier avant même sa communication. Un exemple de gaspillage des ressources publiques, accentué par le fait que Bruxelles entend bien harmoniser les politiques de numérisation au niveau européen.
Donc après une première réaction, une deuxième réaction, après le désastre de la loi Hadopi 1 qu'elle avait très mal défendue devant le Parlement, Christine Albanel est-elle vraiment la personne la mieux placée pour donner des orientations en matière de politique de numérisation des livres ? Ça, on verra bien. Donc, de plus, à l'heure où l'Europe veut harmoniser les politiques, Christine Labanel est-elle vraiment l'interlocutrice privilégiée alors qu'elle avait envoyé valdinguer le Parlement européen lors du vote de l'amendement 138 ? Donc, non seulement Matignon semble le penser, mais en plus, selon le Figaro, le nom de Christine Labanel circule déjà pour représenter la France au sein du comité des sages, créé vendredi dernier en Conseil des ministres de la culture de l'Union européenne. Donc c'est une petite phrase du lu dans le Figaro. Donc en fait, la désignation de Christine Labanel ne répond plus qu'à une logique de Pôle emploi. Sa nomination à la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, est décidée. Mais elle doit d'abord, comme le dit le Figaro, rendre connaissance du délicat dossier de la numérisation des livres, le temps aussi pour elle d'acquérir une compétence. En gros, une sorte de stage ou de période d'essai.
À suivre tout ça, on va s'accorder une petite pause musicale. Je te propose et je vous propose, chers auditeurs, justement, le Sarco Show par Psychonada du label Incona Venenum et c'est sous licence Creative Commons by NCSA 2.0.
Et ben nous prenons.
Rien. Vraiment rien. Personne, vraiment personne, ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Rien. Vraiment rien. Personne, vraiment personne, ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout.
Pas sûr, Charco Show par Psychonada du label Incoda Venenum sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Et nous poursuivons les nouvelles du front sur Divergence FM, Divergence Numérique 93.9 avec l'ACTA, le traité secret impose riposte graduée et filtrage. Négocié à l'abri du regard des citoyens, l'accord de commerce anti-contrefaçon prévoirait l'obligation pour les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, de suspendre l'accès à Internet des pirates récidivistes et de mettre en place des mesures de filtrage et de blocage en concertation avec les ayants droit.
Donc, des commentaires de l'Union européenne sur la proposition américaine pour l'ACTA datée du 29 novembre ont fuité. Donc, les documents sont trouvables sur Numérama. Destinés donc aux négociations, ils confirment l'essentiel des rumeurs dont Numérama s'était fait l'écho. Donc, avec quelques détails savoureux supplémentaires, le chapitre Internet du traité est ainsi divisé en 7 paragraphes. Les paragraphes suivants, donc, obligation générale, responsabilité des tiers en matière de violation de droits d'auteur, les cas de limitation de responsabilité, puis les sanctions anti-contournement des DRM, les procédures civiles et, pénales en cas de contournement, les protections de la gestion de droit et les limitations à la protection des gestions de droit.
Et oui, donc selon Michael Geist, l'accord prévoit aussi donc une protection renforcée des DRM en allant plus loin que le traité OMPI de 1996 qui était à l'origine de la loi DAFSI. On avait longuement aussi parlé sur les ondes de Divergence FM, notamment dans la liste des exceptions de contournement autorisées. Par exemple, le cas, c'était de pouvoir lire des DVD commerciaux achetés tout à fait légalement sur ces bonnes plateformes Linux. Et justement, le développeur avait eu des problèmes à développer donc cette librairie de lecture.
Oui, c'est bah, disons que c'est pas prévu pour qu'on ait une utilisation équitable de la technologie. Ça, c'est un véritable problème. Enfin, après, on a un véritable aussi problème d'interopérabilité avec les DRM parce que c'est fermé. Et puis, bon, bah, dès qu'on parle du libre, on parle d'ouvert. Donc, c'est vrai qu'après,
faut montrer patte blanche. Disons, faut montrer ses sources. Et certains n'aiment pas montrer leurs sources, évidemment. Et toujours dans l'actu ACTA, les FAI demandent à Bruxelles de protéger l'Internet ouvert. Donc l'Association européenne des fournisseurs d'accès à Internet, EuroISPA, a demandé lundi à Bruxelles que l'Union européenne rejette la riposte graduée et la remise en question des acquis de la directive de 2000 sur la responsabilité des intermédiaires dans ses négociations sur le traité ACTA de lutte contre la contrefaçon.
Donc on vous invite pour ces articles sur ACTA à vous rendre donc sur Numérama, www.numerama.com, où vous pouvez retrouver des articles plus complets donc sur le sujet. News suivante.
On peut remercier aussi Guillaume Champeau de Numérama, oui, dont on se sert généreusement pour nos sources divergentes.
Donc, news suivante, la sortie de la version 3.2 du projet Armadeus. Donc, la version 3.2 a vu ce jour le mardi 1er décembre 2009. Donc, pour rappel, le projet Armadeus vise à faciliter le développement de systèmes embarqués à base de logiciels libres. Donc, il est basé sur la combinaison logicielle Ubuntu, Linux et Buildroot, Busybox, UClipc. Donc le projet est alimenté par deux entités, l'association Armadeus Project qui fournit un support bénévole aux particuliers et aux écoles et la société Armadeus System qui conçoit la majorité des cartes électroniques utilisées par le projet et fournit un support commercial aux entreprises désirant développer des solutions embarquées sur base Linux.
Plus d'infos sur linuxfr.org, excellent site de dépêche de nouvelles du libre. On en parlait juste au début, on en revient. Un député qui s'interroge sur Hadopi après avoir voté quand même deux fois.
Eh oui, après avoir voté deux fois, donc Bernard Carayon, député UMP du Tarn, vient à son tour d'interroger le ministère de la Culture avec une question identique. Donc Monsieur Bernard Carayon attire l'attention de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication sur le contenu précis du nouveau délit de négligence caractérisée de sécurisation de l'accès à Internet. Donc instauré par la loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite Hadopi 2. Donc, en effet, à ce jour, les installateurs de réseaux informatiques ne parviennent pas à conseiller leurs clients, ne sachant pas quels sont les éléments constitutifs de cette infraction. Donc, pour l'instant, et étant que les décrets d'implication ne seront pas appliqués, les pratiques antérieures peuvent encore avoir cours. Mais dès la publication de ces décrets, un certain nombre d'installations ne seront plus conformes à la loi, même si elles sont très récentes. Donc, dans ces conditions, non seulement l'installateur ne peut pas remplir son obligation légale de conseil dans la vente, mais en plus, le client va payer cher pour une installation bientôt obsolète. Et il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de clarifier au plus vite cette situation.
Même question et même constat, ce député inquiet du mécanisme au cœur de la loi a lui aussi voté le texte, et pas qu'un peu, aussi bien lors d'Hadopi 1, scrutin du 12 mai, que lors d'Hadopi 2, scrutin du 15 septembre, des scrutins que l'on peut retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.fr. Vous cherchez un petit peu Hadopi, création, loi, création Internet, et vous avez en fait ce qui se dit dans l'hémicycle, tout est retranscrit, ce qui est voté en scrutin public, et donc qui a voté quoi.
C'est assez impressionnant quand même. Tu te sentirais de voter une loi deux fois et de la lire seulement après ?
Je sens encore derrière des consignes de vote, bien évidemment. Bien évidemment.
Et oui. Donc, news suivante. Orange ouvre les logiciels libres de sa Livebox. Et oui, vous y attendez pas, hein. Donc, bon mouvement chez Orange. Ce dernier propose l'ensemble des logiciels LGPL et GPL utilisés pour ses Livebox. Donc Sagem, Thomson Inventel, Mini et 2, donc voilà. En téléchargement sur un site particulier, donc comme SFR9, Orange respecte ainsi le contrat GPL et LGPL.
Orange a ouvert le site livebox-opensource. Ce dernier permet à la communauté open source et logiciels libres d'accéder au code source des logiciels libres présents dans les différentes livebox de l'opérateur. Orange répond enfin à la communauté qui l'accuse de ne pas proposer les versions utilisées comme l'impose la GNU GPL.
Donc voilà, comme de nombreux logiciels embarqués, les firmwares de la Livebox utilisent des logiciels libres, en particulier le noyau Linux, le pack de commandes Busybox et le pare-feu IPTable. Donc ainsi, on peut voir ce qu'utilise Orange, Sagemcom et Thomson pour les firmwares des Livebox. Donc sur la Livebox Sagem, on trouve Toolchain, OpenSSL, E2FS Progs, donc énormément d'autres logiciels. Sur la Livebox, par exemple Thomson, on peut trouver Blues pour le Bluetooth. On a Bridge Utils, Busybox, DHCPD, DFTP, énormément donc de logiciels que l'on peut trouver sur notre système d'exploitation préféré. Puis bon, bah sur la Livebox 2, on trouve aussi donc Busybox, Firefox, Samba, OpenSSL, 2FX Pros, Toolchain. Donc ça fait énormément de logiciels libres quand même encore.
Exactement, puisque sur les Lightbox, et pas que sur les Lightbox, cela tourne sur du Linux embarqué comme dans beaucoup de matériel de la vie courante.
Donc il leur a fallu du temps pour qu'Orange, donc Wanadu, donne accès à une partie du code source, du firmware et de ses Livebox. Donc ce retard est dû au développement et des clauses de confidentialité de Sagemcom et Thomson. Ils sont à la fois créateurs du matériel et développeurs des firmwares de leurs machines. Et oui.
C'est vrai que c'est toujours en fait la partie modem ADSL qui coince. Pour livrer le code source, les constructeurs de puces disent bon ben on a du code propriétaire dedans et on peut pas vous le livrer parce que c'est notre petit secret de fabrique et donc si on le mettait en ligne aussi d'autres pourraient regarder comment on a fait, comment on a mal fait aussi peut-être. Et d'autres pourraient aussi s'en servir. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'ils le mettaient sous, évidemment, GPL, et puis donc en open source, on pourrait utiliser la Livebox pour d'autres utilisations, pour développer plus de choses dessus. Donc, comme a fait Neufbox, mais toujours sans la partie ADSL, eux, ils livrent en fait un module qui s'intègre, une sorte d'objet obscur. Et donc, ça permet du développement supplémentaire sur ces box. Alors, on peut aussi citer le cas de Free, bien sûr, qui dit non, moi, je ne suis pas hors GPL, puisque la box qui est chez vous, c'est notre propriété. On ne vous la loue pas, on ne vous la vend pas. Quoique, ils peuvent la vendre, mais ils ne vendent que le matériel, sans, évidemment, le logiciel intérieur. Mais, évidemment, tout cela, ce n'est que encore de la bataille pour avoir vraiment ce qui est contenu dans cette box.
Et une grande liberté avec le matériel que l'on a chez nous. News suivante, la TVA désormais gérée sur une solution à base d'open source. Oui, vous n'avez pas mal entendu. La Direction Générale des Finances Publiques a opté pour une architecture basée sur 600 serveurs HP à processeur Itanium sous HPUX et utilisant la solution open source COBOL IT Compiler Suite.
La Direction Générale des Finances Publiques, DGFIP, fait évoluer en permanence les logiciels gérant la TVA en France et crée en langage COBOL. Ces applications ont des obligations de haute disponibilité. L'ancien système était basé sur une ferme constituée de HP PA RISC sous l'Unix HP UX. La DGFIP a choisi de faire évoluer cette architecture vers une ferme de 600 serveurs Integrity basée sur processeur Intel Itanium. Le système d'exploitation HPUX a été conservé. Ce choix a permis une migration en douceur. Les applicatifs COBOL existants ont été repris dans le compilateur open source COBOL IT. COBOL IT, voilà, j'en perds ma ligne.
Donc ils ont été repris dans le compilateur open source COBOL IT Compiler Suite, donc de l'éditeur français COBOL IT. C'est bien ce que tu disais, donc sans aucun changement d'architecture.
Absolument, et lors d'une mise à jour logicielle, le temps de compilation est passé entre l'ancien et le nouveau système de 1h30 à 15 minutes pour 2 millions de lignes de code COBOL. Le coût du projet n'a pas été communiqué. Des informations sur www.ciu-online.com.
Des informations pas encore communiquées, mais peut-être un jour. News suivante.
Peut-être une petite pause musicale.
Allez. Oui, je dirais oui.
Allez, on va s'écouter Damdi, fort connu de chez nous avec Le Libre, justement, ça tombe bien, en Creative Commons by NCND 2.0.
Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, nous allons maintenant poser une question fondamentale sur Dogmazic, qu'est-ce que le libre ?
Tout à fait, question fondamentale, le libre est donc une pratique de création et de publication créée pour l'informatique et le logiciel en 1984 et étendue par la suite à tout type d'œuvre ou document qui permet aux utilisateurs et destinataires de copier, partager, modifier, améliorer et rediffuser les œuvres et documents placés par leurs auteurs sous licence libre.
Vous sous-entendez donc que cela s'applique à la musique ?
Tout à fait, ça s'applique à la Zouz et nous verrons qu'avec les licences libres, tout est possible.
Extra Adopi, l'âme dit là pour la critique. Ouais, ouais. La création sa vie. Et nous cause de nos libertés, ouais. La musique et le profit, le net et les LLD. Toc 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 toc, ma zizi. Milite, vont t'expliquer.
Ordre d'idée, pouvez-vous donc nous expliquer ce que sont les licences libres ?
Tout à fait, les licences libres sont l'outil juridique que les auteurs utilisent pour déclarer que leurs œuvres peuvent être copiées, partagées, modifiées, rediffusées avec leur accord et conformément aux principes fondamentaux du droit d'auteur. On parle de mouvement du libre ou de culture libre pour désigner l'ensemble des auteurs, utilisateurs, usagers qui veulent que les œuvres et documents informatiques, scientifiques, artistiques, etc. soient accessibles à tous et constituent des biens communs.
Belle utopie, Tandy l'a bien motivé. Nos créations s'invitent en dehors des lois du marché. Je vise pas le profit,
non, non.
Je veux juste partager. Renseigne-toi vite,
moi
j'ai posé ma clause NC.
Tu veux du libre?
Ouais, ouais, vas-y, donne, 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 cadeau.
Tu veux du libre?
Tout ce que t'as, vas-y, donne, donne.
Tu veux du libre, libre.
T'as rien à payer,
yeah, yeah, yeah.
Pas CB, pas de forfait, t'auras rien à débourser. Moi c'est Dame D, 100% gratuit. Pas commercialisé.
www.dogmazic.net, vous l'aurez compris, excellent portail de musique libre, le libre que nous rappelait évidemment les grands principes, c'était Dame D sous Creative Commons by NCND 2.0.
Eh bien, merci pour ce petit message, Dame D, puisque ça nous rappelle aussi que nous sommes une radio qui diffuse de la musique libre. Et effectivement, comme il est dit, ouvrez vos fenêtres et laissez la musique rentrer. Petite news, on continue sur le libre français s'insurge contre le brouillon du cadre d'interopérabilité européen. Donc, dans une lettre ouverte à la Commission européenne, le groupe thématique sur les logiciels libres du pôle de compétitivité systématique affiche son opposition au brouillon. Donc presque figé du cadre d'interopérabilité européen. Donc au cœur des débats, le flou autour de la notion d'ouverture des standards et celle de l'interopérabilité.
Trouble dans l'interopérabilité en Europe. Le brouillon de la version 2 du European Interoperability Framework, EIF, un cadre d'interopérabilité européen dont le but est de faire la promotion des standards ouverts dans les administrations européennes. Donc il a subi quelques modifications capitales dans sa rédaction depuis sa première version. En ligne de mire, une définition alambiquée de l'interopérabilité qui, dans cette mouture, ne repose plus uniquement sur des standards ouverts. Un changement de cap radical qui floute non seulement la perception de l'open source, mais fait surtout apparaître au grand jour le lobbying de certains industriels auprès des organismes et groupes de travail logés au sein de la Commission européenne. C'est aujourd'hui ce que dénonce Stéphane Fermigier et Roberto Di Cosma, respectivement président et vice-président du groupe thématique sur les logiciels libres au sein du pôle de compétitivité francilien système éthique, ATIC, dans une lettre ouverte à la Commission européenne. un arrière-goût de la normalisation ISO d'Open XML sur fond de puissant lobbying.
C'est un sujet qui va faire encore parler de lui, les formats open. De toute façon, nous en avions déjà parlé lors de différentes émissions de Divergence numérique. Et l'interopérabilité est encore un réel problème dans le domaine de l'informatique. News suivante, vidéo pour les 5 ans de Firefox. Donc voilà, il y a eu quelques vidéos de fête pour les 5 ans de Firefox. La célébration a eu lieu le 9 novembre 2009. Joyeux anniversaire Firefox. Donc cette célébration a eu lieu au Conseil régional de l'Île-de-France. Et c'est donc tardivement que nous vous proposons, suite à des petits désagréments techniques à la visualisation de ces petites vidéos, ces 5 vidéos sur Firefox.
Donc des vidéos sur Firefox qui donc on avait les différents mozilliens, donc évidemment Tristan Nito qui nous parle de Firefox, le chemin parcouru et les défis auxquels ils font face aujourd'hui. On avait Vivien Nicolas, Firefox Mobile, il revient donc sur les enjeux du mobile et la stratégie de Mozilla. Paul Rouget de Mozilla Technology Evangelist, OGV en natif, Rich Media, le web libre de demain.
Donc, il y avait les invités qui avaient des choses intéressantes à dire, comme Laurent Sakam Moustique, cartable numérique libre. Moustique est une SCOP, une société coopérative de production qui édite et diffuse des bureaux numériques mobiles sous licence libre. Et ils ont distribué plus de 600 000 exemplaires sous forme de clés USB aux élèves de l'Île-de-France. Il y a aussi Benoît Cibot, président de l'April. Il nous donne son avis sur Firefox et son impact sur le libre. Benoît Hervier, donc communauté Maemo. Maemo est une plateforme de développement pour les appareils mobiles. Elle est utilisée par les tablettes internet Nokia N770, N800, N810, etc. Le développement de Maemo est fait avec l'outil de compilation croisée Scratchbox. Donc Benoît nous en dit un peu plus sur ce sujet-là. Et puis Nadir Kadem, lead front, leader Dailymotion. Il nous parle de la plateforme Open Video qui accueille les vidéos en format ouvert OGV chez Dailymotion.
Ce qui n'est pas rien quand même. Et puis sans oublier évidemment Mathieu Pasquini qui est le fondateur de In Libro Veritas. Quelques chiffres qui permettent de mieux cerner l'apport du site en termes de diffusion. Donc c'est 15 000 ouvrages, 200 000 lecteurs par semaine, lecteurs en ligne, 1,7 million de pages lu. Mathieu Pasquini a créé sa structure en 2005 pour favoriser la diffusion de la culture via l'Internet et sans la contrainte liée aux droits d'auteur. Son modèle économique est basé sur l'achat de livres en support papier, notamment pour des livres à grande diffusion. Mais l'ensemble des œuvres peuvent être lues et téléchargées gratuitement. Je répète, gratuitement. Le site vous propose ainsi de télécharger gratuitement des livres, d'acheter le format papier, de vous faire vous-même votre propre livre avec différents contenus. Et on va en avoir une interview qui était prise au Festival Artichaut par notre envoyé spécial Monsieur Defred, bien nommé. Donc on retrouve Mathieu Pasquini.
Je suis avec Monsieur Mathieu Pasquini, éditeur, patron libre manager de
In Libro Veritas.
Alors l'actualité de In Libro Veritas, les barbus sans doute, mais raconte-nous, c'est quoi ?
Écoute, l'actu c'est la sortie du bouquin La Bataille à Dopi. C'est un livre c'est un collectif d'auteurs, parce qu'il y a 40 auteurs qui ont rédigé ce livre-là, et c'est en fait les témoignages de ceux qui ont lutté contre Adopi, des politiques, des poètes, des artistes, des philosophes, des sociologues, des entrepreneurs. Il y a vraiment toute la population est représentée. On a essayé de voir au plus large et de recueillir tous ces témoignages qui viendront dire pourquoi est-ce que Adopi est inapplicable, pourquoi c'est une loi qui est inepte. Et puis en plus, avec le résultat du Conseil constitutionnel, on sait très bien que ce livre, maintenant, c'est l'espèce de village gaulois au milieu des Romains qui nous encerclent. Donc il va vraiment falloir qu'on trouve la potion magique et qu'on construise des contreforts, parce qu'il va falloir continuer à se battre. Évidemment, la lutte ne s'arrête pas là. Il y a encore des choses à faire, le Conseil d'État, pour se battre contre les décrets d'application, parce que là,
oui,
va falloir les...
C'est rigolo, apparemment,
comme l'a dit Tardy, ça va être très compliqué à rédiger, mais enfin, ça, il paraît que ça va se faire. Donc, on sait bien, Adopi, c'est une loi très symbolique à laquelle notre président était très attaché. Il a dit qu'il irait jusqu'au bout, donc il s'y est quand même repris à deux fois.
Des gros revers, je pense qu'on verra tous les épisodes dans le bouquin. C'était quand même une belle partie de rigolade. Ça a duré plus d'une année, donc c'est rare.
C'est assez incroyable, et je crois que ça montre bien l'incapacité de notre gouvernement à comprendre le bouleversement et les enjeux de la mutation, même de la révolution qui est en train de nous attendre, parce que Internet a bouleversé la donne, les nouvelles technologies ont tout changé, et aujourd'hui, il faut s'adapter à un environnement qui a complètement été explosé par toutes ces nouvelles technologies. Et c'est comme ça. Ça ne sert à rien de lutter. Personne pleure aujourd'hui les allumeurs de réverbères. Les métiers n'existent plus, ça a changé. Personne aujourd'hui ne pleure les fabricants de carrosses en roulant en voiture. Et voilà, donc en fait, c'est ça. C'est le monde change, le monde évolue, le monde doit s'adapter, parce que c'est comme ça. Puis la nature, c'est comme ça. Voilà, on évolue, on s'adapte. Et ben non, c'est une loi faite pour un petit nombre de personnes, pour des lobbies, pour des conglomérats culturels qui essaient d'avoir tous les métiers sous leur coupe, et qui font depuis une espèce de symbole de l'ancienne façon de voir la culture, de la diffuser, face à l'extraordinaire opportunité qui nous est proposée avec les technologies d'aujourd'hui et le monde de demain.
Et alors, toi, t'es dans les libristes, t'es le seul que je connaisse qui fasse du papier, qui fasse du livre, qui a embrassé le truc. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune industrie culturelle, qu'elle soit télévisuelle, vidéo, on voit le piratage des séries, il y a un renouvellement, mais on a l'impression qu'aucune n'a su négocier ce virage ou n'a vu les enjeux.
Non,
et en ce moment, je vois pas mal dans la presse des mecs qui disent maintenant c'est autour du papier de devenir dématérialisé, d'être en danger, donc toujours la même ritournelle. Toi, t'as envisagé le truc bien plus sereinement, en ouvrant les contenus, en créant des modèles innovants.
Exactement.
Tu crois vraiment à un péril pour l'édition ?
Non. L'édition, quelle qu'elle soit, on aura toujours besoin d'un éditeur, de quelqu'un qui travaille le contenu, qui s'adapte, qui aide l'auteur à progresser, qui cherche des pistes de réflexion, des angles d'attaque. Donc déjà, le métier d'éditeur ou de producteur disparaîtra jamais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, encore une fois, il y a 75 ans, juste avant la guerre, même avec l'arrivée de la radio, les producteurs de musique disaient la radio va tuer la musique. Voilà. On sait ce qu'il en est advenu.
La VHS aussi.
Voilà, la VHS va tuer le cinéma, ça y est, on est tous morts avec la VHS. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Internet ne tuera pas la création, on aura toujours besoin d'éditeurs, on aura toujours besoin de producteurs. Et c'est tout, c'est les moyens de diffusion, c'est les moyens de se développer. Voilà, on fait plus de 78 tours, on fait du MP3, et puis demain on fera autre chose. Et je crois que la culture a tout à gagner à être libre, la culture et l'art, le savoir a tout à gagner à être ouvert, à être librement diffusable, et les industriels trouveront toujours à s'adapter.
Donc cette partie de la bataille... pour l'instant un peu bouclé, mais on n'a pas fini la guerre, comme ils disent.
Non.
Et on va la gagner. Merci Mathieu.
Salut, ciao.
Merci Mathieu Pasquini et De Fred pour ce petit interview sur divergence numérique qui reparle encore de sujets qui nous tiennent énormément à cœur.
Et oui, c'était dans le cadre du festival Artichaut, précisons-le, cette interview. Une petite pause musicale hein.
Volontiers, un petit peu de musique, ça ferait du bien.
Allez, on est toujours dans la même galère, ça c'est 5-9 prod qui nous dit ça, et c'est sous licence C Réaction.
Et Souk est ferme.
À peu près les mêmes galères. Ça commence par l'amour, un amour brisé. Pourtant, on s'était promis de s'aimer tout le temps. Peu importe le temps, peu importe nos sentiments. On a tous vécu un décès dans sa famille, dans ses amis. C'est là que tu te rends compte de l'importance de la vie. On a tous connu ce moment de solitude où t'as l'impression que plus personne t'écoute. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tout te dégoûte. On a tous connu ce bonheur temporaire où ta seule pensée est que le temps s'arrête pour que ce souvenir reste éternel. On a tous déjà pensé à avoir des ailes pour pouvoir s'envoler, oublier qu'on n'est pas éternel. La vie est pleine de surprises, chaque personne est différente, mais se ressemble car on vit à peu près les mêmes choses. On ressent les mêmes sentiments, de la haine à l'amour, de la jalousie à l'humour. Voilà pourquoi on se ressemble tant, voilà pourquoi tu te vois dans ce que je ressens. On vit tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire de gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences. On vit tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire de gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences. On a presque tous déjà pensé au suicide, où t'as l'impression que personne te comprend. Tu te sens inutile, tu t'abîmes, tu foires et tu regrettes ton geste jusqu'à ta prochaine déprime. On a tous vécu ce grand fou rire où tu pleures des heures en avoir mal au bide. Tu n'as plus le contrôle, mais ça te fait bien fou. C'est fou, mais t'oublies tout ce qui se passe autour. On a tous vécu des problèmes financiers, où t'es limite d'être fichier, où on te retire ta carte et ton chéquier. On a tous déjà versé une âme pour un ami, ou pour une personne gravée dans notre âme. On a tous eu un pote décédé d'un accident de taux ou de moto, où le soir avant de s'endormir, on regarde sa photo. On a tous déjà dit, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie, car un baiser, une joie, un plaisir nous a donné une joie de vivre. Tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire de gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences. On vit tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire de gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences. Trop souvent j'ai vu des personnes regarder plus haut de ce qu'ils pouvaient voir. T'avoue que ces personnes-là ne font que me décevoir et de ses preuves. Meilleur que tout, ils pensent être différents et surtout mieux que nous. Aujourd'hui ce qui fait notre différence c'est notre richesse. Mais je vous rappelle qu'on connaît pas une personne à son portefeuille, car la plus grande richesse en vérité se trouve dans le cœur. Dommage que certains l'ont oublié, qu'ils fréquentent des personnes juste pour leur porte-monnaie. Qu'on soit noir, rouge ou blanc, on a tous une fois déconné. Alors continuez à faire vos différences, faudra s'y faire, car la couleur c'est notre nouvelle France. On vit tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire de gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences. Tous à peu près les mêmes galères, on se voit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Pourtant c'est l'histoire des gens différents, voilà pourquoi faut pas se fier aux apparences.
La même galère par 5-9 prod sous licence C Réaction. Et vous écoutez toujours Divergence Numérique sur le 93.9 de Divergence FM.
Et de retour sur les nouvelles du front, effectivement, dans la même galère, vous allez pouvoir emmener vos enfants. Donc, domptage de serpent pour les enfants, donc à apprendre à programmer en Python. Mais what is the Python ?
Python, c'est un langage ?
Eh ben oui, c'est un langage de programmation. Donc le livre Snake Wrangle for Kids, dorénavant sous licence libre Creative Commons 3.0 by SA, a été traduit en français, donc dans sa version pour Windows. Et vous pouvez offrir ce livre pour Noël aux enfants que vous connaissez, même si la version française actuelle est prévue pour Windows. Elle reste en grande partie utilisable sous d'autres systèmes d'exploitation. Et le document, donc au format PDF, et le code source du livre sont téléchargeables sur le site Google Code du livre. Donc c'est assez étonnant. Les enfants vont se lancer sur des nouveaux langages de programmation. C'est moi qui suis informaticien, ça m'étonne de voir arriver des enfants encore plus jeunes sur ce genre de technologie. Que vais-je devenir ?
À noter aussi donc que le livre, comme tu disais, est sous licence Creative Commons. Et c'est d'autant plus intéressant puisque c'est effectivement une nouvelle mise à disposition des documents, comme le disait Mathieu Pasquini de In Libro Veritas, où lui aussi, les livres sont sous la plupart du temps sous Creative Commons.
Mmh. Et en plus, quelques petits mots nous informent que le livre est sûrement utilisable pour des enfants francophones à partir de 10 ans. Donc il y a eu quelques adaptations qui ont été faites, bon, l'ajout des traductions des termes anglais if, print, else, for, while, enfin bon, j'en passe.
Ça me fait penser à des langages français qui avaient été, ils ont des langages qui avaient été traduits, des langages de l'éducation nationale, je sais pas si ça te parle, le LSE, où tout était en français pour faire sa programmation, une sorte de basique à la française.
Ben si, ça me dit quelque chose, mais je l'ai découvert que beaucoup plus tard, alors que je n'étais plus un enfant.
Ouais.
Et il y a eu encore beaucoup d'adaptations quand même ont été faites dans ce livre. Donc l'utilisation de fichiers pour stocker les codes sources à partir du moment où les programmes deviennent conséquents. Il y a l'ajout de quelques exemples, simplification de certains exercices, notamment pour que les notions se comprennent un peu plus pour certains enfants, donc la suppression des notions de taux d'intérêt, etc. Et l'ajout de dessins et de mise en couleur de dessins, donc de dessins déjà présents dans le livre. Donc c'est vrai que ça s'ouvre beaucoup plus à un public de plus en plus jeune, c'est agréable d'entendre ça.
Et donc peut-être une plus facile accessibilité à tous aussi.
Oui, sûrement. Et je pense que ça ne s'adressera pas forcément qu'à des enfants.
Mais à des jeunes ou des anciens enfants, comment on dit ça?
Des
enfants de tous âges. Voilà,
des enfants de tous âges. Tu me remettrais un petit peu de musique là, tu penses?
Allez, pour le plaisir, Julien Angel qui était aux rencontres mondiales du logiciel libre, le grand Julien Angel avec The Strong. Sous licence Creative Commons by NC 2.0 et il est donc sous le label Another Records.
I'm still awake inside, worn out of the in front of this looking now, I feel troubling. I've seen a fake God telling tales while I've been out dealing songs. They let the models break their skins and make me part of the strong. Artificial life for the living dead, but they won't blow the human soul way out of their heads. They fix some artificial life for the living dead, but they won't blow the human soul way out of their heads. This is the one I love.
The Strong par Julian Angel, extrait de son dernier album Life is Not an Answer sous Another Record et sous Creative Commons by NCND 2.0. Julian Angel qui nous prépare un nouvel album pour 2010.
Et de retour sur quelques news qui peuvent ouvrir l'appétit ce soir. Donc les repas du Libre à Toulouse, le groupe d'utilisateurs de logiciels libres de Toulouse, Tout Libre, propose aux amateurs de ces logiciels de se retrouver le quatrième jeudi de chaque mois pour échanger autour du logiciel libre, discuter de nos projets respectifs et de lancer des initiatives locales autour du libre. Donc ce repas est ouvert à tous, comme le libre, amateurs de l'esprit, du libre, débutant ou technicien chevronné. Ce QGELT aura lieu le jeudi 10 décembre 2009 à 20h, donc au restaurant Le Bistrot de la Dorade, situé au 1er rue Jean Souault à Toulouse. Donc effectivement, c'est à proximité de la place de la Dorade, donc accessible par le métro aux stations Esquirol ou Capitole ligne A. Donc entrée, plat, dessert, un quart de vin, 16€. Donc c'est pour des porte-monnaies pas forcément bien grands. Donc sachant que l'inscription est demandée avant le mardi 8 au soir. Donc sur le site de Tout Libre, donc l'adresse est la suivante: www.toutlibre.org/QGELT.
N'oublions pas aussi le second jeudi du Libre, édition de Noël. La Linuxerie, donc nîmoise, se réunit à la brasserie au bureau le 24 boulevard Amiral Coubert à Nîmes le 10 décembre. Disons, on vous l'annonce un petit peu en avance, comme ça vous prenez vos dispositions. C'est à 20h pour les jeudis du Libre, au menu logiciel libre, GNU, Linux, actualité du libre, la communauté et les acteurs du logiciel libre de Nîmes et de sa région se réunissent donc chaque second jeudi du mois pour une soirée conviviale, pour répondre à vos questions, à votre curiosité autour du thème des logiciels libres. L'occasion également de partager ses idées, ses expériences, une table, l'ambiance est sympathique et facilite les conversations. La soirée commencera donc à 20h et prendra fin aux alentours de 23h et voire plus, vu l'expérience que j'en avais eue. C'était très très sympathique. Une soirée qui s'inscrit donc dans le cadre des Jeudis du Libre en partenariat, n'oublions pas, avec Montpellier Libre qui organise actuellement les Last Jeudis sur Montpellier.
Et on peut prendre donc pour la suite les points libres qui se rapprochent un peu plus de notre radio, les points libres qui se passent à Montpellier le vendredi 4 décembre 2009 de 14 à 19h.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que dans le cadre des points communs de Kawenga, l'association Montpellier Libre organise le vendredi 4 décembre de 14 à 19h un atelier point libre. Donc l'atelier aura lieu à Kawenga, donc 21 boulevard Louis Blanc à Montpellier, donc au tramway, l'arrêt de tramway Corum. Le grand rendez-vous de tous les passionnés du logiciel libre. Donc cet atelier aura pour thème principal les techniques de création de moteurs de recherche système expert. Donc vous pouvez trouver le programme du libre, le programme de cette soirée, cette journée plutôt, sur le site Agenda du Libre, ainsi que de beaucoup de journées se passant dans toute la France. Donc notamment donc ces points libres sur Montpellier ce vendredi 4, d'autres actions se passant notamment sur Paris. Nous avons encore sur Toulouse, Ville Active, Ubuntu Party samedi. Nos camarades de Toulousains sont bien actifs, donc ce quatrième jeudi du libre toulousain qui se passera donc le 10 décembre. Nous avons aussi encore le samedi 12 à Toulouse un atelier de travail sur KDE, un atelier sur Blender. Donc nos villes voisines et amies du sud bougent de plus en plus. Il y a aussi un séminaire sur le poste de travail libre qui se passera aussi le 10 décembre. Je vous invite à passer sur www.agendadulibre.org pour avoir toutes ces informations sur vos collègues du libre qui font énormément de choses un peu partout.
une petite musique pour refermer cette édition avant de vous dire au revoir. On va écouter White Sand on a Mirror par New Time sous licence Art Libre et toujours pioché dans l'excellent portail dogmasic.net.
The time is yours and mine. The time is yours and you can feel the world. You can feel the time. You can feel my love deep in your heart.
White Sand a Mirror par No Time sous licence Art Libre. Et c'est la fin de cette émission.
Et oui, merci Pascal, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc Pascal Rullier à la régie et Anaël Navarro sur le plateau. On vous remercie tous.
On vous remercie tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles du front, pour de nouveaux invités. On lance un appel si vous voulez parler du libre sur notre antenne, que vous soyez une association, une entreprise, une société de informatique, de logiciel libre, SS2L comme on dit, et ben n'hésitez pas à contacter nous, Divergence Numérique, à Divergence FM.
Et si vous êtes des fans de l'émission, envoyez toutes vos bonnes ondes à Gilles Gouget qui remet gentiment et qui nous rejoindra dès que...
Gilles, porte-toi bien.
Oui, à bientôt Gilles.
À bientôt.
Terrorists will acquire weapons of mass destruction.
Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states. Weapons of mass destruction.